Il est l'heure, chers auditeurs, auditrices de Radio Escapade, de retrouver Bruno pour son émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors aujourd'hui, on va rencontrer un des acteurs essentiels de la bande dessinée. C'est le directeur littéraire, directeur de collection. Il est souvent et régulièrement appelé éditeur, car il assure le suivi du livre du début jusqu'à l'édition finale. Alain David a démarré dans l'édition chez Rackham. Depuis 2006, chez Futuropolis, il porte de nombreux projets. Les derniers en date, le tome 2 des Sundays Pages de 1933 à 1938 de Popeye, ainsi que les voyages de Gulliver illustrés par Lorenzo Mattotti. Nous serons avec Alain David autour de 14h10-14h15 pour qu'il nous précise ce qu'est ce métier d'éditeur. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez entendu, Antoine est en régie. Donc dans quelques minutes, on entendra Alain David. Mais la suite du feuilleton d'Angoulême auparavant, avec une crise qui s'intensifie, et notamment, alors ça c'est quelques informations d'une dépêche de l'AFP, de Bordeaux, qui insiste sur un nouveau point de ce feuilleton, c'est les pouvoirs publics qui menacent et qui ont même mis certains à exécution une diminution des subventions portées à les organisateurs et notamment 9e Art Plus pour la partie de l'édition 2026. Alors, c'est pas pour resituer et redonner comme il faut le contexte. Donc, les auteurs et autrices ont lancé un boycott de la manifestation par rapport à leur opposition à 9e Art Plus, qu'ils considèrent tout à fait nocif et pas adapté à la gestion du festival qui l'entraîne sur des pistes où eux, en tant qu'auteurs et autrices, ne sont pas reconnus comme ils le souhaitent. Et c'est pleinement justifié, leurs arguments sont solides. S'en est suivi un boycott annoncé des éditeurs et éditrices qui disent « mais nous, on va pas... acheter des mètres linéaires d'étal au Festival d'Angoulême si les auteurs et autrices ne sont pas là. Alors, cette vague s'est intensifiée parce que des auteurs étrangers, des éditeurs étrangers ont aussi suivi le pas et donc menacé de pas venir. Alors, devant ces deux boycotts, les pouvoirs publics ont dit « mais nous, on va pas mettre de l'argent comme ça sur une édition 2026 où finalement il y aura très peu de monde et très peu d'auteurs ». Alors, il y a la société 9e Art Plus qui est vraiment remise en question et qui ne sera pas reconduite à partir de l'édition de 2028. Normalement, ils sont en contrat jusqu'à 2027. Mais il y a aussi l'association FIBD, Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, qui est présidée par Delphine Groux, qui est la fille d'un des co-créateurs du Festival de Bande Dessinée d'Angoulême en 1974. Alors, la confiance est rompue avec Delphine Groux, qui essaye d'imposer la société 9e Art Plus, puisque elle avait reconduit, à partir de 2028, cette société dans la gestion et la gérance du festival. Mais donc, il y a eu cette première levée de bouclier, on retire la société 9e Art Plus de l'après-2028, Mais quid de la prochaine édition en janvier 2026, et c'est très tôt. Et là, il y a vraiment un problème de représentation. Et Delphine Groulx a été écartée d'une association qui s'appelle l'ADBDA, l'Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême, qui a été créée en janvier 2017 et qui s'était mise en place après une première menace de boycott qui réclamait une refonte radicale de l'événement. Alors cette association va être importante parce que l'idée c'est que ça soit vraiment une organisation interprofessionnelle qui va pouvoir avancer avec les organisateurs, les désignés. Il y aura des auteurs, des éditeurs, auteurs et autrices bien sûr, éditeurs et éditrices, et puis des pouvoirs publics. Et donc, c'est par cette association-là qu'il pourra y avoir une refonte et une nouvelle direction, une nouvelle orientation pour le Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Lorsqu'on regarde le site du festival, rien. Site du FIBD, pas un mot sur ce qui se passe, ce qui est quand même fort de café. C'est les propriétaires du salon, c'est eux qui sont quand même à l'origine d'un certain nombre de déclarations. Ils pourraient quand même faire un édito pour expliquer la situation. Donc, à l'ABDA, cette association pour le développement de la bande dessinée Angoulême, Delphine Groulx ne sera pas présente. Et ça sera Dominique Bréchoteau, qui est aussi une figure historique incontestée du festival, qui va être présent pour le FIBD et ainsi arriver vers une situation plus apaisante. Alors ce qui est à retenir de cette crise au niveau du FIBD, du Festival de bande dessinée d'Angoulême, c'est d'abord que le boycott des autrices et des auteurs a marché, a été pleinement entendu. La menace est très forte et il faut vraiment se rappeler en permanence que sans les auteurs et les autrices, eh bien le salon tout simplement n'existerait pas comme l'édition n'existerait pas. Donc il y a là, par cette base et ce boycott, eh bien un acte très fort. L'autre information, c'est que il y a d'autres festivals de bande dessinée en France, dont certains ont une notoriété importante, comme le Festival de Bois ou le Festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Il y en a d'autres qui sont moins connus, mais qui restent essentiels, comme par exemple le Festival de bande dessinée de Colomiers, qui est vraiment centré sur l'édition indépendante. Il y a eu un grand apport du Festival de bande dessinée d'Angoulême sur la création, notamment avec la considération et la mise en valeur de toute l'édition de fanzines, de structures beaucoup plus indépendantes, plus légères, qui font de l'édition avec de faibles tirages, mais avec des lignes éditoriales exigeantes, et qui ont ainsi pu vraiment avoir une vitrine à Angoulême. Ben, on est bien loin de tout ça, et je pense qu'il y a des festivals et qui vont reprendre le flambeau, parce que là, on est sur les affres d'une commercialisation de tout craint. Donc, pour l'instant, pas d'édition 2026. La crise continue à Angoulême. Voilà, il y a eu un petit... je me suis planté lamentablement sur mon conducteur. Donc, alors, on va tout de suite passer à la musique, parce qu'en fait, il y a un livre que je souhaitais vous présenter, puis c'est impossible, vraiment impossible. Donc, en fait, on va tout de suite entendre Alain David. On va écouter son premier choix musical. Il en a fait trois. Il y a l'harmonica interprétée par les naufragés. C'est une chanson des naufragés. Il y a le Fish and Chip Supper de Paul Heaton et le It's Only Rock and Roll des Rolling Stones. Ça sera les trois choix musicaux que l'on pourra entendre dans cette émission. Musique.
Mon sac de matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau. Souvenir de tout pays, bouteille de rhum et de whisky. Une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'y ai mis l'harmonica, j'avais acheté ça Malaga. Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica. Pour la chigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica. Il m'accompagne partout, une chanson prête à chaque trou. Il sait des tas de refrains, dont la plupart sont des marins. À bord pendant les carabords, il fait rêver les gars. Il leur parle de la terre et du pays de leur amour. Avec mon harmonica, je fais la voix, l'harmonica, pour la chique et la polka, tout est sale, les gars, pour l'harmonica. Du temps où j'étais pas manchot, il faisait la cour dans les pays chauds. À une sombre beauté, il ne voulait pas se tenter. Sa peau et son corps étaient noirs, elle ne voulait rien savoir. Je lui ai dit que j'étais matelot, elle a crié, je suis perdu. Avec mon harmonica, je souffle la voix, l'harmonica, l'harmonica, pour la chique et la polka, écoutez ça, les gars, pour faire l'harmonica. Celui qui a fait cette chanson, c'est Henri, chaque matelot de pont. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui payer un coup. Avec sa mine de trafiquant, faut bien lui rincer les dents. Offrez-lui un coup de tafia, et je vous jure bien qu'il est boit. Avec mon harmonica, je fais la folle, l'harmonica, l'harmonica. Pour la juge et la polka, écoutez ça, les gars, faut faire l'harmonica. Mon sac de matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau.
À la fin du refrain.
Une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'y ai mis l'harmonica que j'avais acheté à Malaga. Avec mon harmonica, j'ai fait la voix, l'harmonica, pour la chute et la polka, et donner ça les gars, pour faire l'harmonica. Je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica.
Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica.
Avec mon harmonica, je souffle la voile à l'harmonica, l'harmonica.
Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, faut faire l'harmonica.
Depuis quelques années, dans les livres, est mentionné éditeur, l'éditeur et son nom. Équivalent des directeurs littéraires ou en littérature ou parfois des directeurs de collection. Cette fonction d'éditeur organise un suivi des livres de la proposition de l'auteur jusqu'à la parution finale du titre. Alain David, après avoir œuvré aux éditions Racam, participé à l'édition française de Sin City par Vertige Graphique, est éditeur aux éditions Futuropolis depuis 2006. Deux livres sortis hier ont été suivis par Alain David, le Popeye tome 2 des Sundays de 1933-1938, date de la mort d'Edgar Chrysler Segar, et il y a également la création et l'édition du Voyage de Gulliver, illustré par Lorenzo Mattotti. Donc, ces Voyages de Gulliver ont été écrits par Jonathan Swift. Futuropolis, avec ces Voyages de Gulliver, poursuivent l'édition de grands romans associés au dessin de grands noms du dessin ou de la bande dessinée. On peut citer Larsenès, Farr, Munoz, par exemple. Cette profession d'éditeur reste abstraite pour lectrices et lecteurs, tant l'œuvre s'impose à la lecture. Pourtant, comment se façonne l'écrin de cette œuvre pour que le livre trouve toute son ampleur. Nous sommes avec Alain David pour qu'il nous détaille cette profession d'éditeur. Bonjour Alain David.
Bonjour. Vaste question.
C'est ça. On va tenter d'avancer sur cette question. Alors, quelques mots sur le contexte, c'est-à-dire que vous êtes éditeur chez un éditeur, donc les éditions Futuropolis. Mmh. Comment peut se définir votre fonction précisément ?
Ben effectivement, en littérature, ce serait directeur littéraire. Hein. Je crois que c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est le travail d'éditeur, c'est ça. C'est-à-dire, vous l'avez très bien résumé. Hein. C'est la proposition, l'acceptation, le suivi et tout ce qui peut se passer en coulisses entre l'envie d'une création, d'un auteur, et puis le moment où où le livre est dans les mains du lecteur. Voilà, c'est-à-dire que ça passe par d'autres étapes, hein, je veux dire, les autres personnes, la fabrication, l'impression, tout ce que vous voulez, mais les corrections, voilà. Mais en tout cas, j'aime à dire que c'est un travail un petit peu d'homme invisible, c'est-à-dire que on est là, l'éditeur est là pour faire aboutir un projet, et que à la fin, faut que ça soit bien. C'est-à-dire que le lecteur ne se pose pas de questions, quoi. Je veux dire qu'il ait le plaisir, la détestation s'il n'a pas aimé, hein. Je veux dire, ça peut arriver, mais en tout cas qu'il ne se sente pas floué par des erreurs, par des choses qui font qu'il piraterait la lecture. Voilà.
Il y a dans cette préparation des projets, comment va se décider, se finaliser la décision de l'édition ? Est-ce que vous êtes seul à la prendre ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le circuit ? Comment ça se passe ?
Dans le cadre d'une maison d'édition comme Futuropolis, nous sommes trois éditeurs. Donc on essaye on a une politique en commun, hein, qui est de faire une quarantaine de livres par an. Il y a une logique d'édition, je veux dire, il faut que les livres, il y a une sensibilité, il y a des envies, on va pas faire n'importe quoi. Il faut que ça s'inscrive dans la logique du catalogue, on va dire, voilà quoi. Demain, on va pas se mettre à faire des gags en une page. Guide de je ne sais quoi, parce que ça ne correspondrait pas à la maison d'édition, à d'autres politiques. Après, donc, je veux dire, on discute entre nous des projets, quand ils sont acceptés, après, chacun suit le livre qu'il a défendu. Voilà, donc, il y a une forme d'unanimité au départ sur les choix, et après, chacun travaille à sa façon avec les auteurs.
Alors, prenons par exemple la parution donc toute récente de ce deuxième tome des Sunday's Pages de Popeye, donc là on est de 1933 à 1938, qui est la date du décès du créateur, Segar, ouais. Voilà, oui. Edgar Kressler Segar. Alors comment ça s'est passé là, parce que là il y a de l'achat de droits, comment c'est créé l'envie de publier ce titre et de le traduire.
Alors, l'envie, elle est née, je dirais, l'année dernière. En fait, l'an passé, en 2024, hein, Futuropolis fêtait ses 50 ans. À cette occasion, on a décidé de publier 5 livres, on va dire, hors notre catalogue, mais qui étaient hommages aux collections ou aux auteurs d'origine du Futuropolis de Robial et Sestac. Et là, j'ai quand même fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un hommage au Futuro canal historique, on va dire, sans rendre hommage à la collection Copyright, qui était une collection qui a publié justement des grands auteurs comme Milton Caniff, Popeye, Flash Gordon, voilà, donc des titres vraiment du patrimoine américain, patrimoine mondial aussi, puisqu'il y avait Calvo. donc il n'y avait pas que de l'américain d'ailleurs. Voilà, et donc ça c'est accepté. Voilà, c'est une bonne occasion. Après, il faut trouver effectivement une série ou un auteur où les droits sont libres et où le matériel est bon. Et le challenge le plus compliqué dans le cadre d'une collection comme ça, donc plutôt de strip, c'est que comment ne pas léser le lecteur en faisant, soit on fait un best-of, mais si on fait par année, une série, je sais pas, par exemple, comme Steve Canyon, par exemple, de Milton Caniff, ça a duré 30 ans, on va pas se lancer dans l'édition de 15 livres, parce qu'on sait très bien que c'est un public assez limité. Or, il y avait cette chance qu'il y avait, le matériel disponible, propre, très propre, de Popeye, je veux dire, des pages du dimanche, et qui, en américain, était publié en 4 volumes. En France, donc, on a réussi à le faire en 2 volumes. Donc, on peut proposer une intégrale, des pages du dimanche, à ce moment-là, avec du bon matériel. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est du matériel inédit en français. C'est-à-dire que autant les strips quotidiens de Popeye dessinés par Cigar ont été publiés par Futuropolis et ont été largement repris, autant les pages du dimanche ne l'avaient pas été, ou de façon épisodique, mais en tout cas jamais en intégralité. Donc voilà, donc tous ces facteurs ont fait que ça a été possible. Voilà. Et après, effectivement, une fois qu'on a les droits, la grande difficulté, c'est la traduction. Voilà.
Alors, Alain David, justement, comment intervenez-vous sur l'édition de ces deux tomes de Popeye ? Quel a été votre rôle ?
Eh bien, le choix, je dis, j'ai quand même cherché ce qu'on pouvait trouver à faire. Après, le choix de faire les pages du dimanche, le choix de le faire en un volume, puis en deux pour pouvoir proposer l'intégralité, le choix du traducteur, la relecture avec la traductrice en l'occurrence, voilà, de voir effectivement comment. Donc le suivi, il n'est pas sur le défunt, évidemment, parce que je veux dire, Cigar est mort en 1938, on ne va pas revenir là-dessus. Mais après, de travailler principalement avec la traductrice, avec la lettreuse, pour faire que le livre en français soit le plus fidèle possible à ce qu'a fait Cigar en 1930, entre 1930 et 1938.
Le Popeye est particulièrement délicat à traduire.
C'est un sacré challenge.
Alors,
parce que effectivement, c'est une langue qui est torturée, hein. Voilà, qui marche beaucoup à la phonétique, au jeu de mots aussi. Parce que Popeye, par exemple, ça veut dire en gros, il a un œil borgne, quoi. Hein. Donc voilà, Popeye. Voilà, tout ça, il faut le faire ressentir dans la version française sans non plus que ce soit totalement illisible, habitable, quoi. Je veux dire, voilà, faut se méfier de ça, donc il faut trouver la juste mesure. Et en plus, effectivement, une des difficultés de traduire de l'humour, c'est que là où il peut y avoir des jeux de mots dans la version originale, ça ne pourra pas être le même qu'en version française. Donc il faut arriver à trouver un équivalent, voilà, pour qu'on puisse. Si ce n'est avoir l'exacte traduction, on va dire, en tout cas le même esprit et le même endroit où on peut rire.
Alors, qu'est-ce que ça représentait pour Sidonie Van Dendries, qui est donc la traductrice des deux tomes? C'est une traduction d'ampleur.
C'est énorme, tout à fait, ouais.
Comment se passe la relation avec elle? Il y a des avances sur traduction, des aides du CNL. Est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir rentrer sereinement dans ce genre de traduction d'ampleur?
On n'entre jamais sereinement dans la création d'un livre, je crois, même quand il a été dessiné 80 ans auparavant. Non, plus sérieusement, d'aide du CNL, très certainement, mais on ne l'a pas demandé, en l'occurrence. Après, effectivement, les traducteurs, les traductrices sont payés en avance sur droit, avec une somme au feuillet, donc de traduction, et après un pourcentage quand les ventes, comme un auteur, quoi, à ce niveau-là, quoi. Voilà, mais c'est effectivement, c'est pas des traductions anodines, en tout cas pour ce genre de livre, parce que on peut très bien passer, j'ai tâté un petit peu de la traduction aussi, justement, trouver un jeu de mots, quelque chose, on peut passer des heures sur une bulle, quoi, sur une phrase, parce que donc ça peut ne pas être rentable pour la personne qui fait ce travail-là, parce que faut trouver, c'est pas que la traduction, faut trouver l'esprit, quoi. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine, ouais, c'est un travail très très long. Voilà, il y a des bandes dessinées à traduire qui vont beaucoup plus rapidement quand c'est un langage courant, voilà, qui suffit juste de maîtriser la langue et d'avoir un petit esprit de synthèse, parce que la difficulté de la traduction pour la bande dessinée, en l'occurrence, c'est que comme il y a plus de mots, par exemple, en français qu'en anglais, c'est que malgré tout, le texte doit tenir dans la bulle, quoi. Voilà.
Alors, il y a une autre partie dans l'édition de livres venant de l'étranger, de livres états-uniens pour l'occasion, c'est le lettrage.
Oui.
Alors, on a eu souvent, pendant quelques années, une simplification du choix en utilisant des polices numériques, mais qui n'étaient pas, qui étaient celles de livres courants et qui affadissaient les livres. Donc là, il y a le lettrage, donc qui est fait par Marie Van de Waal. Là aussi, quelles sont vos exigences par rapport au lettrage du Popeye?
Il a parlé des lettres. non, sérieusement, les exigences, là c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est là où c'est compliqué, effectivement, c'est que la place est limitée, il faut faire souvent tenir un peu plus de mots. Après, dans le cas de Popeye, c'est un lettrage numérique, bien évidemment, mais qui doit tenir compte de l'édition originale. C'est-à-dire que les mots peuvent danser, peuvent être en gras, ils peuvent être complétés par des émoticônes, des tas de choses, des bruits même, voilà, des notes de musique, qui viennent pirater, on va dire, le texte pur dans la bulle, les mots peuvent être dansants, on va dire. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Donc, il fallait vraiment respecter ça. C'est-à-dire que le lettrage, c'est la voix des personnages, c'est la voix des auteurs. Donc, on va essayer de ne pas les faire parler de façon atone, mais de garder cette richesse pour que si on lit à voix haute, on soit capable de faire les intonations du personnage. Voilà.
Alors, il y a la mise en fabrication. Alors, là aussi, à quel moment intervenez-vous, notamment pour la maquette, pour le suivi de l'impression? Est-ce que c'est vous qui le réalisez ou si c'est Didier Gonor qui est le maquettiste maison? Et puis le choix du coût, comment intervenez-vous à ce niveau-là?
Le choix, pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la question.
Le choix du livre, à quel prix public, par exemple, il sera vendu? Est-ce que vous intervenez aussi là-dessus, Alain David?
Alors, en ce qui concerne la maquette, le graphisme, effectivement, ce sont des discussions avec le directeur artistique, avec la maquettiste, voilà. Après, impression, coût de fabrication et prix de vente ne sont pas de mon ressort. Ça, par contre, voilà. Donc, ça, c'est en ça que c'est une maison d'édition, c'est que chacun a un rôle, et là, ce n'est pas le mien.
Alain David, je vous propose votre second choix musical, c'est Paul Eaton avec Fish and Chips Supper, et on se retrouve donc dans quelques minutes pour parler du voyage de Gulliver, des voyages de Gulliver, illustrés par Lorenzo Mattotti. À tout de suite.
D'accord, merci.
Bought her a fish and chip supper for what he had done in the day. But the smell was too much, so he opened them up and finished them off on the way. She lit them a candle, she turned on the oven, she laid at the fox and the plates, but he demolished that grass.
turned up with two of his mates. Chips up. Bunch of flowers. So sorry for what he had done. But by the third pub he stopped, the heads had broke off, and the best of intentions had gone. She cancelled appointments for doing her hair, her nails and yoga as well. Then he turns up a dollar at 4:20, and this be the story he tells.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Alain David, qui est éditeur aux éditions Futuropolis. Alain David, nous avons évoqué une sorte de dommage et de poursuite de ce travail fait avec la collection Copyright par Étienne Robial et Florence Estac. Et puis il y a la parution, donc toute récente, des Voyages de Gulliver illustrés par Lorenzo Mattotti. Alors là aussi, Futuropolis, donc de Robial et Sestac, avait publié des textes illustrés. Alors comment vous êtes-vous approprié cette forme littéraire du roman illustré?
Ça n'a pas été un calvaire.
c'est bien.
Vraiment. Non, mais j'adore ça. Alors vraiment, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié du Futuro Gallimard, puisque c'est à ce moment-là aussi que Gallimard a pris départ chez Futuropolis avec le Tardi, Voyage au bout de la nuit. Certains livres illustrés par Baudouin. Pardon ?
Il y avait Juillard, le...
Et Juillard, tout à fait, oui, Faulkner, oui. Ouais. Et c'est une tradition qui me plaît bien. On a commencé à en refaire avec L'étranger de Camus, illustré par Munoz. Et donc, j'avoue que... Dès que j'ai eu des possibilités, je me suis emparé de certains titres. Donc c'est vrai que j'ai travaillé avec Romain Gary par deux fois, on va dire, puisqu'il y a La promesse de l'aube illustrée par Johan Sfar, La vie devant soi avec Manuel Effiore, donc des auteurs que j'apprécie. J'ai pu travailler sur Boris Vian avec les frères Bredy. L'an dernier j'ai publié Le Lion illustré de Kessel, illustré par Anne d'Affreville. Et donc tout ça c'est vraiment des livres que je prends beaucoup de plaisir à faire ces livres-là. J'ai l'impression de travailler sur des livres qui m'ont fait rêver, quoi. Donc c'est vraiment très plaisant à ce niveau-là, quoi, qui m'ont apporté, on va dire. Et donc il continue, voilà. Et c'est vrai que en début d'année, en discutant un jour avec Mattotti, il était tenté par cette collection. Et il se trouve que moi, qu'il nous a proposé, il venait d'illustrer pour l'Italie Les Voyages de Gulliver. Et donc pour un éditeur italien, et donc il garde les droits de ses images. Voilà. Et donc il a proposé d'en faire une version illustrée pour Futuropolis. Voilà, et donc, ça se refuse pas, je pense. Si vous voulez, Lorenzo Mattotti a proposé une banque de données d'images, hein, D'une part. D'autre part, on avait le texte de Gulliver, donc j'ai regardé différentes traductions existantes, et je dois reconnaître que celle de Gallimard et la Pléiade était certainement la plus intéressante, hein, la plus moderne, en tout cas. Voilà, et donc après, c'était le travail consiste avec ces illustrations, à trouver le meilleur endroit possible dans le texte pour les placer, voilà, pour que ça soit vivant et que surtout l'image corresponde à ce qui se passe dans chaque chapitre, dans chaque passage du texte. Alors, voilà. Donc c'est un grand. Et après, donc c'est confié au directeur artistique qui, lui, met en page ça et de façon la plus équilibrée possible. Voilà. Mais il a pas la personne qui s'occupe de Didier Gonnor, en l'occurrence, qui s'occupe de la conception graphique, n'a pas à lui chercher dans le texte où placer le dessin. Je veux dire, c'était vraiment c'est un travail d'équipe à ce moment-là.
Alors. Étienne Robial, au moment de la parution de cette collection Futuropolis Gallimard, évoquait une sorte de contrainte où la surface image devait être équivalente à celle du texte. Alors, est-ce que vous avez gardé cette contrainte? Est-ce que vous vous en êtes libéré pour avoir peut-être plus de latitude pour le...
Je pense qu'on s'est libéré de cette contrainte, oui, tout à fait, oui.
Et qu'est-ce qu'elle vous a permis alors de vous être libéré de cette contrainte? C'est plus facile à gérer au niveau de l'édition?
Non, c'est pas tellement à moi de vous le dire, mais je pense surtout que ça permet de mettre en avant des dessins, on va dire, plus travaillés que des dessins. Ce que je trouve très beau là dans ce livre, en l'occurrence, puisqu'on parle du Gulliver illustré par Matotti, c'est que Lorenzo Matotti a proposé dans cette banque de données de 80 images à peu près, aussi bien des dessins très aboutis, des dessins couleurs, crayons, faits pour être pleine page, que des recherches en couleurs, des petites aquarelles, et que des petits dessins, des recherches au crayon, vraiment, qui sont presque des dessins de placement, de recherche. Et je trouve que... En fait, il n'y en a aucun qui est pauvre. Vous voyez ce que je veux dire, hein, oui. C'est que vraiment, chacun a ses qualités. Je veux dire, les petits dessins au crayon de Matotti sont d'une beauté que moi, me vraiment me bouleverse, je trouve. Hein. Et je trouve que c'est bien de les mettre. Après, il fallait les mettre. Je suis content qu'on les ait mis. Après, là où il y a une contrainte, c'est que effectivement, petits dessins au crayon n'ont pas à faire une pleine page, par exemple, vis-à-vis d'un dessin qui serait extrait abouti avec ce travail en couleur et tout qu'on connaît chez Matotti. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un équilibre entre ces différentes formes graphiques, voilà, mais de proposer toute la richesse.
Alors, Alain David, comment se passe les discussions avec les autrices et les auteurs, jusqu'où pouvez-vous intervenir sur la conception d'un livre? Est-ce que vous pouvez proposer des modifications? Comment se passe cette partie-là du suivi de l'œuvre?
Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tout dépend de l'auteur et de ce qu'il veut entendre ou ne pas entendre. Après, effectivement, le travail d'éditeur, c'est premier lecteur. Donc, on est là pour, non pas pour brider la création, mais en tout cas pour en ressentir la compréhension. C'est-à-dire que quand on lit un projet, quand on lit des storyboards, voilà, s'il y a quelque chose où nous, éditeurs, on bute, je veux dire, si je bute sur un passage, alors que, bon, je veux dire, c'est mon travail, il y a de grandes chances que le lecteur bute encore plus. Voilà. Donc, vraiment, la discussion, elle est plutôt là. C'est-à-dire que de faire que ce soit harmonieux, compréhensible, voilà. Effectivement, peut-être faire des propositions qui peuvent être dans le dessin, dans les dialogues, dans la narration. Après, l'auteur n'est pas, on n'est pas fouet. pieds et poings liés. C'est-à-dire que si ce que je propose, il trouve ça tartignole, eh ben, il ne le fera pas. Et je ne vais pas lui dire, si tu ne le fais pas, eh ben, on ne fera pas le livre. Voilà, je veux dire, chacun est dans son rôle. Après, voilà, c'est une discussion. Hein. Mais c'est certainement les moments les plus intéressants, effectivement, le moment de la création, parce qu'on est au plus près du travail de l'auteur. Donc, c'est quand même des très belles discussions. Voilà.
Alain David, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple d'un livre comme ça qui aurait, par ces discussions, pris une direction différente ou c'est précisé et qu'au final, ben, c'est une pleine satisfaction pour l'éditeur que vous êtes? S'il y en a un hein, qui vous vient à l'esprit.
Oui, bien sûr. Après... Non, c'est difficile. Non, je peux vous... j'ai un exemple à venir, en fait, mais qui est tout frais dans ma tête, voilà, dont je peux vous parler. C'est que là, je travaille avec Anne de Freville sur un projet, sur une histoire de l'écriture qu'elle a commencé à dessiner en début d'année avec un sociolinguiste qui s'appelle Louis-Jean Calvé. Voilà, et donc nous avons commencé à travailler ensemble. En plus, le projet est arrivé par Aurel, un dessinateur que vous connaissez peut-être, le connaissez. Voilà, et donc... discussion, voilà, nous avons une personne qui est un savant mais qui n'est pas scénariste de bande dessinée, Anne de Freville qui est artiste et donc qui peut se poser des questions sur la narration. Voilà, donc on discute et puis là, donc l'exemple récent que je peux vous dire, c'est que malheureusement Louis-Jean Calvé est décédé il y a quelques semaines, voilà, et avant que le livre, il a réussi à tout écrire. Mais avant que le livre ne soit terminé, de dessiner et même de découper. Voilà, donc c'est le problème maintenant, c'est qu'il faut finir sans le scénariste, on va dire, et on ne peut pas le cacher non plus au lecteur. Voilà, donc maintenant, je vais vous raconter ma petite anecdote. Donc Anne se posait déjà la question de comment annoncer ça dans le livre. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de ça dans le livre? Alors, quelques mois, au début du livre, Louis-Jean avait demandé à Anne de la dessiner avec une pipe à la bouche, parce que c'était un vieux monsieur, il avait toujours une pipe, un peu comme le capitaine Haddock. Il a dit, sinon, les lecteurs ne vont pas, enfin mes lecteurs, mes amis, ne vont pas me reconnaître. Voilà, donc c'était un petit gag. Il décède, je dis à Anne, donc bah, tu n'auras qu'à dire qu'il a cassé sa pipe. Voilà, donc ça... un petit jeu de mots, voilà. Mais là où la collaboration, on va dire, devient encore plus intelligente de sa part, c'est qu'elle s'est tout à fait emparée de ça, mais en lui faisant chanter une chanson de Georges Brassens, hein, donc j'ai cassé ma pipe, ma vieille pipe en bois, voilà, et il se trouve que Louis-Jean Calvé est l'auteur d'une biographie de Brassens, c'est-à-dire que de cette petite anecdote, de cette façon de travailler en dialoguant et en faisant des échanges d'idées, on arrive à quelque chose qui est bien mieux, qui est tout à fait dans l'esprit et du livre et de l'auteur, des auteurs même, du coup, et qui est un bel hommage, voilà. Est-ce que je vous ai bien répondu?
Ah oui, c'est parfait, c'est parfait.
Alors, un peu long, mais...
non, mais c'est bien. Le livre sortirait à vers quel moment?
Il sortira en 2027.
D'accord. Donc, effectivement. Mais je me souviendrai de ce passage, de cet entretien pour pouvoir effectivement le remettre.
Voilà. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à lire Méditerranée d'Aurel, puisque c'est grâce à ce livre-là où donc Aurel faisant parler différentes personnes sur la Méditerranée, il a interviewé Louis-Jean Calvé, donc il y a un petit passage vraiment super sur l'histoire de l'écriture qui vient de la Méditerranée, et ça a été le point de départ de ce projet suivant. Voilà.
Merci beaucoup.
C'est ça, les dialogues avec les auteurs. Voilà, ouais. C'est un projet en entraîne un autre.
Alors, par rapport à ce travail d'éditeur, quels seront les deux prochains livres que vous aurez suivis apparaître chez Futuro?
Alors les deux prochains sont au mois de janvier. Voilà, donc il y a un livre de Thomas Zelos et Aurélien Ducoudray qui s'appelle Les Montagnes Dorées, qui est une bande dessinée un peu à l'âme russe, enfin qui se passe en Russie, qui a un retour, la retour d'un soldat de la guerre, une personne qui aurait dû mourir, voilà, et ça pourrait être un récit de Gogol ou de Tolstoï, hein, je veux dire tellement c'est ou de Tchekhov, ouais, plutôt d'ailleurs, tellement c'est empreint de cette âme russe et de cette atmosphère fantomatique. Et le deuxième est une traduction d'une jeune autrice anglaise qui s'appelle Catriona Chapman. Et c'est le deuxième livre d'elle, deuxième livre publié en français. Le premier, c'était Breakwater. Et qui est une histoire qui se passe dans le milieu de la cuisine en Angleterre. Voilà, des grands restaurants. Et c'est un livre choral qui est aussi qu'est-ce que la passation, comment évoluer dans une société, une entreprise, mais comment ne pas perdre ses amis. Voilà, et c'est honnêtement, c'est un très beau livre. Hein, ça pourrait être un film de Ken Loach. C'est une bande dessinée de Catriona Chapman, et vraiment, ce sera à découvrir dans les deux cas.
Donc, merci beaucoup, Alain David. Je rappelle les deux livres récemment parus que vous avez suivis. Donc, il y a Les Sundays de 1933-1938, c'est celle de Popeye, créée et dessinée par Elsie Chrysler Segar, et puis Les Voyages de Gulliver, illustré par Lorenzo Mattotti. Bah, très bonne continuation et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Alors pour terminer, et ben cette fois il y a vraiment un livre, hein, parce que j'avais souhaité donner de l'espace à l'actualité d'Angoulême, et donc là, comme chaque semaine, et bien le livre après l'entretien est toujours plus marquant, c'est un choix encore plus affirmé. Et là, je vais même encore en rajouter, parce que ce livre que j'ai entre les mains, eh bien, fait partie du patrimoine. Et pourtant, il est plein de nouveautés, au bon sens du terme. Alors, je vais être plus précis. Le livre en question, c'est « Naphtalène et compagnie » de FMUR. Et FMUR, c'est F'MU3R, comme dans Math Conture, il y a 3T à maths. Eh bien, ce Naphtalène et compagnie est un livre qui est édité par les éditions 2042 et qui vont publier les œuvres de FMUR. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc, il commence par Naphtalène, qui avait déjà eu une parution. Alors, c'était la collection Pilote, c'était Tartine de clous, alors, c'était des livres très fragiles. Et donc, on est là dans une édition complètement différente, puisque les éditions 2042 ont un soin tout particulier sur la fabrication. Et là, on a, par exemple, un très beau papier qui a une main très agréable, un toucher très agréable. C'est un papier 150 grammes avec une couverture cartonnée épaisse et qui a vraiment de la tenue. Et en plus, on a le format, c'est un peu plus grand que le 24-32. Et ça donne une grande ampleur aux planches, ce qui n'était pas du tout le cas du Tartine de clous de l'époque, qui avait déjà un titre un peu énigmatique. Alors, Naphtalène et compagnie va être centré vraiment sur ce personnage de Naphtalène qui est apparu dans les pages du Génie des Alpages, parce que Sefmur, le Génie des Alpages, et il y a eu une apparition comme ça. On est en 1975, et puis après, il va y avoir les histoires dans la revue Pilote, qui rassemblait à l'époque des grands noms de la bande dessinée, qui sont tous devenus des grands classiques, et qui montraient toute la modernité de cette revue, à vous en donner le tournis. Alors, Naphtalène, c'est un personnage qui elle, eh bien, est pas du tout comme dans le film des Alpages. Fmur aime bien explorer toutes les pistes, les possibilités narratives. Donc, elle est dans les galeries du Jardin des Plantes. Elle vit dans une baleine qui est donc un des squelettes exposés par le Jardin des Plantes, qui a donc tout un espace dédié aux animaux. On découvre Naphtalène dans une histoire qui s'appelle Naphtalène et l'enclumier. Et elle a un look tout à fait particulier. C'est une grande femme avec une coupe au bol. Et on ne voit pas ses yeux. Elle fume le cigare avec un plaisir manifeste. Et elle démarre cette histoire avec une sorte d'ecclésiastique plutôt intégriste, qui est dans un bassin du jardin des plantes et qui demande à Naphtalène de mettre le caillou dans l'eau pour qu'il puisse couler. Et ça ne marche pas. Et l'ecclésiastique dit « tant pis, je renonce. Allez, je vous paye un pot, bien aimable, Naphtalène. Je vois, le bassin n'est pas assez profond. C'est pas. On y va ? Une minute. Qu'est-ce que vous oubliez ? Mon sabre, il est resté au fond. Vous avez un sabre aussi ? Waouh, quel type ! Et là intervient le morse, ami de Naphtalène. Dites donc, ne vous venez pas ? Qui êtes-vous, monsieur ? Fortez vos folles doigts de mon baffin. Je suis le locataire de feu bassin, monsieur le fond veine. C'est malin, je n'arrive pas à repêcher le fourreau. Voilà, il faut avoir rouillé dans mon baffin. Et Naphtalène et l'ecclésiastique partent, et elle dit « Laissez tomber ce vieux Marconi radote. Je l'ai non pour un morph. » Alors, moi, ça me met en joie. Parce que une des grandes difficultés de la bande dessinée, contrairement à la littérature, où le travail sur la langue peut facilement être mis en œuvre, au niveau de la bande dessinée, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a cette relation texte-image qui ne donne pas au texte le même statut, la même importance que dans un roman. Et là, ce personnage de Marconi, le morse, qui a paraît, qui va débouler dès la deuxième page avec son problème de prononciation, eh bien, ça donne tout de suite une amplitude déjà au texte par cette capacité à traduire des sonorités différentes. Et puis, cette relation texte-image, parce que, en plus, le morse en question, il a une sacrée gueule. Donc là, le ton est tout de suite donné et on va avoir Naphtalène qui va déployer ses histoires. On va avoir l'apparition d'un pape empaillé avec des pieds de canard. Il y a un non-sens à la manière du génie des alpages qui est une des très grandes forces de l'écriture de Fmur. C'est que d'emblée, vous ne savez pas où vous allez aller, mais que par contre, lui a mis en place un espace à partir d'histoires courtes, avec une galerie de personnages donc puissantes, Naphtalène, Marconi, qui est un phoque amoureux de fantômes, ce pape empaillé, cet ecclésiastique, un homme de Néandertal qui essaye dans le jardin des plantes, dans les galeries souterraines, de créer le feu, mais il n'y arrive pas. Et à chaque fois, on a des libertés qui permettent à Fmur de créer un espace narratif loufoque où le non-sens est roi et où le plaisir du lecteur est total parce que nous sommes sur aucun attendu. Le passage dans la partie japonaise du Jardin des Plantes est aussi un petit morceau d'anthologie où nous avons une sorte de moine japonais qui parle, qui a une logorée interminable et qui va être surprenante à tout bout de champ. Il y a un autre personnage féminin avec d'autres caractéristiques, Thora, elle a des très grands yeux. Et c'est donc à chaque fois cette composition, cette façon très fine de s'approprier ce contexte narratif pour véritablement en faire un espace de liberté. Au niveau de la bande dessinée, des artistes qui ont marqué Fmur, mais il y a par exemple Lerryman avec son Quasi Cat, qui était une œuvre de cette puissance, avec ce discours, cette parole très particulière, et qui est vraiment un des très grands monuments du 9e art. Et puis il y a aussi des artistes comme Franquin qui ont aussi marqué par sa puissance de l'humour et de la création, qui ont aussi marqué Fmur. Le dessin de Fmur est un dessin qui est aussi personnel que son univers narratif. Il y a donc déjà un dessin qui est ouvertement ironique et humoristique, ne serait-ce que dans la physionomie, dans les expressions des personnages, mais qui n'appuie pas sur ce caractère humoristique, mais qui va toujours, dans les représentations, décaler le style et apporter cette ironie permanente. Il y a une séance de lessive de pull qui, là aussi, est un grand moment de ces histoires. Il y a un autre personnage qui apparaît dans cette première édition des œuvres de Fmur publiées par les éditions 2024. C'est Lily Fiu-Fiu, qui est une sorte de personnage, là aussi, atypique, qui tire plutôt, elle, vers l'esprit western, mais pas que. Et c'est un travail aux couleurs sépia qui fait merveille. Et puis, il y a un autre point très important, et je finirai par là, c'est la publication d'un récit inachevé qui s'appelle « Le double tigre ». On a 11 pages de planches finalisées, et puis le synopsis et des crayonnés, et qui permet de vraiment voir ce travail d'écriture et cette façon de travailler, d'imaginer une histoire. Et il peut y avoir un texte qui est complètement écrit avant la mise en image. Ce n'est pas toujours le cas. Une autre information, et vous voyez, j'en rajoute une parce qu'elle est importante, qui complète, c'est qu'on a la publication d'une page de carnet. Et le carnet, ben, c'est le numéro 32, et ça indique véritablement que il y a ce travail du dessin, cette recherche permanente, ce plaisir graphique qu'ont un certain nombre d'auteurs, qui fait que le travail dans le carnet est une étape essentielle de la création. Eh bien, tout ça apparaît, transparaît et rayonne dans ce volume Naphtalène et compagnie d'Hoffmur, publié par les éditions 2042. Le livre fait 76 pages. C'est un très beau travail d'édition avec un marquage à chaud de la couverture qui vous permet d'avoir le nom de l'auteur et le titre en relief. Et c'est un plaisir pour la main. Le prix du livre est de 28 euros. En tout cas, c'est un très bon démarrage et l'idée de pouvoir découvrir d'autres œuvres de Hoffmur ainsi, eh bien, ça me met en joie. Merci Antoine pour cette technique. J'ai un peu débordé, mais voilà, ça m'a... Ce Hoffmur m'emballe littéralement. La semaine prochaine, nous serons avec Bénédicte Muller pour son livre aux éditions Atrabile. Et très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.